Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classic Club sur France Musique. Tous les soirs de la semaine à 22h30, du lundi au jeudi en tout cas, nous nous retrouvons ici à l'hôtel Bedford en direct, 17 rue de l'Arcade, pour recevoir des musiciens qui nous font toujours plein de surprises ou de cadeaux. Pour certains d'entre eux, le cadeau de ce soir, ça me l'avait jamais fait, fêter un anniversaire et pas n'importe lequel, celui des 80 ans en direct avec nous ici. Et bien c'est le cadeau que nous fait Elia Winball qui est avec nous. On lui a pas préparé de gros gâteau, non, j'ai juste une petite tablette de chocolat France Musique. Bon, il faudra qu'il se contente de ça, mais pour le reste, lui nous racontera plein de choses. Et j'en suis sûr, comme toujours, sera très généreux d'anecdotes et d'avis sur la musique. Il y a Winball, donc, pour l'essentiel de cette émission. Et puis la dernière partie, d'ici une petite heure, nous a rejoint un pianiste qui joue du Louis Couperin. Vous saviez qu'on pouvait faire du baroque, du Bach, du Handel éventuellement au piano, mais pas du Louis Couperin. Mais lui a osé le faire et c'est fort beau, ma foi, le résultat. Pierre Chalmeau sera avec nous tout à l'heure. Vous écoutez le France... Le Classic Club sur France Musique et non pas le Francis Club sur vous savez pas quoi. Enfin bref, bienvenue à tous.
France Musique.
Je vous ai même pas demandé si votre gâteau était bon, il y a Winball.
Très bon.
Il était bon, hein.
C'était moelleux au chocolat, très bien.
Ah oui, c'était pas le cheesecake d'anniversaire, c'était en fait le fondant d'anniversaire. Oui, magnifique, oui, hein. Oui. Ça, c'est bon. Merci Olivier, en tout cas, hein, parce que c'est magnifique, très très bien. Je salue notre deuxième invité dans cette émission, dans ce Classic Club, qui va être avec nous jusqu'à minuit. Pierre Chalmeau, bonsoir.
Bonsoir Lionel.
On a goûté le petit fondant au chocolat aussi, hein.
Je ne m'en suis pas.
Tout le monde a goûté, j'ai l'impression d'être allé piquer dans le gâteau de
Louis,
dans le gâteau
de
Liaou.
Si. Oui. Ah oui.
Et il a aimé aussi. Pierre, vous nous donnez un disque qui vient de paraître chez Fondamenta, qui est consacré, alors c'est quand même un étonnement, à Louis Couperin. Je dis que c'est un étonnement, Louis Couperin, parce qu'en fait, évidemment, comme je le disais tout à l'heure en ouverture d'émission, les baroques, enfin je veux dire les compositeurs baroques au piano, il peut y avoir Bach, il peut y avoir Handel, il peut y avoir François Couperin éventuellement. Louis, c'est quand même une véritable rareté. Hein. Qu'est-ce qui vous a donné comme idée d'aller vers là ?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert sa musique au moment où je sortais du conservatoire de Lyon.
Ouais.
C'était un concours de circonstances dont j'ai pris conscience plus tard. C'est-à-dire qu'au moment où mes études se terminaient à Lyon et où je faisais face à l'après-conservatoire, qui est toujours une période un peu particulière dans la vie d'un pianiste, je découvrais en fait un grand compositeur de clavecin. Alors évidemment c'est une situation assez banale dite comme ça, puisque comme vous l'avez dit, Bach, Handel, Scarlatti, Rameau, François Couperin, Soler, ouais, sont des compositeurs 100% de clavecin et qui sont communément admis comme au répertoire de piano. À tel point qu'on a même tendance à oublier ce que ça fait au clavecin, tous ces compositeurs. Pour Louis Couperin, ça n'a jamais eu lieu. Les pianistes n'ont jamais vraiment...
Oui, ça s'en pas emparé.
Voilà, il n'y a pas eu cette réappropriation qui a été très naturelle pour beaucoup de compositeurs. Et je crois que c'est dû à un concours de circonstances entre des problèmes d'édition, qui ont été en fait très tardives, hein, puisque les premières éditions de Louis Couperin datent du tout début du XXe siècle. Et jusque-là, c'était vraiment les connaisseurs, la fine fleur des connaisseurs qui connaissaient Louis Couperin et qui peut-être en jouaient dans les cercles de clavecinistes, je veux dire, qui survivaient difficilement au XIXe siècle. Mais c'est qu'au XXe siècle que Louis Couperin a été, même pour les clavecinistes, vraiment redécouvert et qui l'a amené aujourd'hui à être considéré comme un des très grands compositeurs du début du XVIIe siècle, à l'origine de toute une école de clavecin, l'école française de clavecin.
Vous dites des problèmes d'édition, c'est-à-dire qu'en fait on n'a rien de sa main, c'est ça, c'est tout tardif, reprise.
Tout à fait, c'est un point très important pour moi dans ce projet. Louis Couperin n'a pas été édité de son vivant. Mmh. On a aujourd'hui deux copies de ses manuscrits, donc c'est-à-dire qu'après sa mort, sa partition, son unique partition à lui, qui était sa partition qui devait poser sur son piano, mais sur son clavecin, sa partition a été copiée deux fois par une personne dont on ignore l'identité. Et ces deux manuscrits ont parcouru le temps. Alors, ils ont d'abord été conservés dans une famille, qui était la famille Bohun de Bersan, qui a valu son nom à ce manuscrit, qui est le manuscrit de Bohun, qui est en fait une mine d'or, puisque ça contient, c'est une compilation de toute la musique française, pas toute, mais d'une grande partie de la musique française pour clavecin du XVIIe siècle. Et c'est cette source-là qui est notre source principale de la musique française pour clavecin du XVIIe siècle. Ça paraît fou comme ça, mais s'il n'y avait pas eu un copiste mandaté par un mécène pour copier toutes sortes de compositeurs, en passant par d'Anglebert, Louis Couperin, Chambonnière et d'autres, peut-être qu'on n'aurait aucune trace de toutes ces musiques.
Alors comment on sait que cette écriture, c'est particulier, quand je dis l'écriture, ce n'est pas l'écriture musicale telle qu'elle sonne après, hein, mais l'écriture, même la graphie de Louis Couperin qu'on voit sur les partitions, on sait quand même que c'est de lui, ça aussi, cette manière. Écriture qui lui est unique, hein, qui est une invention.
Eh bien non, on ne sait pas si c'est vraiment de lui, puisque l'écriture à laquelle vous faites référence, il me semble que c'est bien donc les préludes non mesurés, ouais, qui a ce graphisme si étonnant et si inhabituel, une musique sans aucune indication rythmique, sans barre de mesure, avec uniquement des rondes et plein de liaisons qui déjà donc visuellement sont assez agréables à regarder. Cette notation a été peut-être pas totalement inventée par Louis Couperin, mais on va dire poussée à son apogée, poussée à son paroxysme, et restera assez courante chez les compositeurs de clavecin pendant environ 50 ans, 80 ans. C'était une notation qui avait pour but d'imiter le style improvisé, d'imiter ces musiques qu'on jouait pour ouvrir un concert et qui étaient souvent dans un style non mesuré et très libre.
Alors on va entendre justement un extrait de votre disque, Pierre Chalmeau, consacré donc à ce Louis Couperin, de la manière dont vous le, je ne sais pas si on peut dire transcrivez, mais en tout cas, ça c'est certain, jouez au piano.
Thank you.
prélude en sol mineur de Louis Couperin a été joué au piano par Pierre Chalmot sur ce disque qui paraît chez Fondamenta. Alors non seulement ça marche bien, on va dire pourquoi au piano, mais c'est lyrique cette musique incroyablement telle qu'on l'entend. Ça l'est déjà au clavecin. Parce qu'on a l'impression parfois d'une voix qui part à la main droite, hein, d'une voix, une vocalité, quoi, une soprano, je ne sais quoi.
C'est très lyrique au clavecin. C'est toute l'intériorité de cette musique s'exprime au clavecin. Sur ce point, je ne dirais pas que le piano apporte forcément, mais par contre, je dirais qu'il nous facilite peut-être la perception de toutes ces caractéristiques. C'est-à-dire qu'il y a des ombres romantiques, il y a des élans. On a l'impression parfois d'entendre du Debussy ou du Chopin. Alors moi, j'ai souvent l'impression d'entendre du Brahms chez Louis Couperin. En tout cas, il y a plein de portes qui s'ouvrent et je crois que le piano apporte un décalage, tout simplement, et que ce décalage nous ouvre les oreilles sur le contenu de cette musique.
Mais décalage, pas tant que ça, parce que ça semble très naturel, ce qu'on entend là, enfin, il n'y a pas de problème. On ne se dit pas qu'il y a une opposition instrumentale ou je ne sais quoi, pas du tout.
Tout à fait, d'autant plus que pour ce qui est des préludes non mesurés, celui qu'on vient d'entendre, toutes les notes sont écrites, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ornementation à ajouter, l'ornementation est contenue dans l'écriture. Pour les autres pièces de Louis Couperin, il y a un travail d'ornementation à apporter assez considérable, qui n'est absolument pas noté, et pour ce travail, je le dis, j'ai pris pour modèle vraiment le son du clavecin tel que je le percevais, tel que je me le représentais.
Vous êtes allé le toucher d'ailleurs, le clavecin, je crois.
Ah oui, oui,
enfin,
oui.
Plus que le toucher d'ailleurs, hein, oui, vraiment oui. Travailler.
Hein. Je suis allé essayer, je suis allé travailler dessus et je suis allé, je crois que je suis allé au bout de l'impasse qui était, comment est-ce qu'on peut retrouver au piano le son du clavecin ? Et évidemment qu'il y a une limite, évidemment qu'il y a un moment où on ne peut plus le retrouver. Mais je crois que c'est justement là que le projet prend tout son caractère. C'est qu'il s'agit non pas simplement de prendre une partition et de la lire au piano, comme on peut le faire avec n'importe quelle œuvre et pour n'importe quel instrument, mais il s'agit bien de prendre un univers, une partition, un instrument, et vous évoquiez tout à l'heure la notion de transcrire, et c'est vraiment dans cet état d'esprit que je l'ai abordé, comment transcrire cette musique et la sonorité de cette musique.
Et son esprit aussi.
Et l'état d'esprit qu'elle contient, comment la transcrire avec mon instrument. Puisque, évidemment, la question que je me mette à jouer du clavecin ne s'est pas vraiment posée.
La question de la bizarrerie, je dis ça parce que dans le livret, vous parlez justement de nommer ce terme-là de bizarrerie. C'est vrai, quand on s'approche d'une partition comme ça, ça se sent encore à l'écoute, même si, encore une fois, je le dis, ce lyrisme, ce grand naturel, puis le dramatisme qu'il y a dans la musique de Louis Couperin, c'est aussi une écriture pleine de choses tout à fait étranges. D'autant plus qu'on est sur un instrument qui, a priori, n'est pas celui pour lequel elle a été faite.
Oui, oui. Alors, cette bizarrerie, elle est souvent contenue dans l'harmonie. Et bien sûr, les préludes non mesurés poussent la bizarrerie parfois à son extrême dans les modulations, dans les enchaînements imprévus. Mais là, il y a une volonté manifeste du compositeur de surprendre avec un style improvisé, donc un style justement où même l'interprète est censé se duper lui-même et se prendre au jeu de l'improvisation. Pour ce qui est des pièces, des danses, des pièces mesurées, on a aussi affaire à une musique dont le cadre tonal n'est pas encore aussi établi que ce qu'on a l'habitude d'entendre au piano. Et on navigue entre les tonalités majeures et mineures de manière extrêmement fluide, sans vraiment trancher. Par exemple, une chaconne très connue qui est en ré mineur, toutes les deux mesures, on termine la phrase en ré majeur. Et pourtant, elle est bien en ré mineur. Mais il y a quelque chose qui est ambigu et qui est dû aussi à l'époque.
On va écouter ici cette chaconne ou passacaille en sol mineur. On disait tout à l'heure qu'elle était un peu matricielle pour vous, parce que c'est l'une de celles que vous avez vraiment approchées parmi les premières, c'est ça?
Tout à fait. Ça a été le premier gros coup de foudre.
Ah ouais. En lisant sur la partition, pas en l'écoutant.
Tout à fait. Vraiment, en la déchiffrant, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cet ovni complet ?
Ovni, est-ce que c'est bien l'impression que ça peut donner ? C'est beau quand même, hein, de l'ovni, ça peut être. C'est donc Louis Couperin joué par Pierre Chalmot. Thank you. C'était une chaconne en sol mineur de Louis Couperin, jouée par Pierre Chalmot, une œuvre, encore une fois, qui chante énormément. Elie Wynbal, vous avez une oreille pour ce genre de musique, pour celle qu'on vient d'entendre en particulier?
Ah oui, j'adore écouter ça, oui. Et je connais beaucoup de pianistes qui aiment jouer Couperin.
Louis Couperin, c'est très rare, c'est beaucoup plus rare, Couperin plutôt que François.
Oui.
Je vous disais, pardon.
Oui. C'est toujours très romantique, très romantique, très expressif, pas du tout quelque chose de carré, qu'on contient un tempo, mais ça apporte à être plus libre.
Un peu plus libre. Cette musique. Est-ce que vous avez écouté les chefs d'orchestre baroque, par exemple, Lernoncourt, les machins comme ça? Vous avez aimé ça ou vous n'avez pas
aimé ce genre
de choses?
Vous savez, maintenant, venant en voiture, c'était des fois en voiture à Paris aujourd'hui, je ne sais pas laquelle, la deuxième ou la première, j'ai entendu l'inachevé de Schubert, l'inachevé de Schubert, par un chef d'orchestre d'époque, pour ainsi dire, avec un instrument d'époque et tout ça, avec cette interprétation. Et je trouve ça très charmant, mais je n'ai pas compris pourquoi il prenait des tempis tellement rapides que ça changeait le caractère de la musique. Et ça est devenu comme une sorte de danse. Et bon, on peut dire que ça gagne quelque chose d'un point de vue et ça perd beaucoup de choses d'un autre. Bon, il y en a qui exagèrent un peu dans cette direction, oui. Et puis, il y en a qui font aussi beaucoup de petites... C'est pas honnête. Ah bon? Parce qu'il change la musique d'une manière pour faire, par exemple, commencer une phrase et puis faire une grande diminuée, de disparaître. On peut faire ça, d'accord. Et moi, je suis content qu'on fasse une autre version. Après, quand je viens avec ma version, ce sera différent, d'accord. Mais on a beaucoup appris.
Oui, quand même.
Oui, beaucoup appris. L'importance de l'articulation, l'importance du rythme. Mais parfois, on a perdu beaucoup de choses.
Ouais.
Et moi, j'essaie de remettre cette profondité. Par exemple, quand on fait l'héroïque de Beethoven, je trouve aucun intérêt de faire des tempi très rapides, des sans vibrato, quand ça devient comme une sorte de danse, c'est-à-dire qu'il y a autre chose dans cette musique, je crois.
Pierre Chalmot, vous, évidemment, vous êtes allé écouter de ce côté-là, des clavecinistes, vous êtes allé...
Oui, moi, je crois qu'on grandit avec cette opposition entre le monde dit baroque, les baroqueux, et le monde moderne. On ne dit pas les modernes, on dit les romantiques ou les idiots parfois. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a des ponts qui se forment de plus en plus. Et je dois dire que, en ce qui me concerne, tout en n'étant pas du tout spécialisé sur la musique baroque et... Je veux dire, j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence et presque ma vie à jouer du Prokofiev, du Beethoven et du Chopin. Mais je crois que j'ai toujours été quand même un peu jaloux de la richesse incroyable de répertoire qu'abordent les baroqueux. Toutes ces pièces qu'ils ont l'occasion de recréer, de redécouvrir, de réinterpréter pour la première fois. Et tout ce que ça déclenche dans l'approche musicale de recomposition, de réécriture, de réappropriation en tout genre. Et c'est sûr que le foisonnement du répertoire de cette époque, et avec les limites qu'on évoquait tout à l'heure sur les partitions, en fait les limites de l'urtexte, c'est-à-dire les limites flagrantes qu'il y a pour connaître les intentions de l'auteur, nous force, les baroqueux font ça tous les jours, mais moi c'était nouveau, à prendre part à l'action d'interprétation d'une autre manière, d'une manière assez extrême, qui je dois dire, extrêmement agréable.
Le Classic Club ce soir, c'était Flora Sternadel, Maud Nourry, Antoine Courtin, Sandrine Bréchaud et Jean-Pierre Zingue.